Tout de suite, l'atelier campus. Les étudiants prennent la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là pour assister à ce colloque sur le thème de l'innovation et du progrès en Corse. Donc je vous présente ceux qui vont m'accompagner tout au long de ce débat et de ce colloque. Donc il y a mesdames Aurélia Bonenfant, Alexandra Casanova, Lesia Sansonetti, Mélanie Cadena, Marie Dalbiès et monsieur Frédéric Balzano et Thomas Philippine. Donc comme je l'ai dit, le sujet de ce colloque porte sur l'innovation et le progrès en Corse. Donc nous avons décidé tout d'abord de vous présenter le sujet en lui-même, le développement des notions donc d'innovation et de progrès et leur application à la Corse. Ensuite, toute l'équipe prendra la parole pour débattre sur des sujets qui ont été traités tout au long de cette étude et des recherches. Et nous terminerons en vous laissant la parole. Si vous avez des questions, nous tenterons de répondre à toutes vos interrogations. Donc nous allons commencer par, je vais vous présenter un peu le colloque. Alors, il faut en premier lieu faire la distinction entre le progrès et l'innovation. En effet, souvent dans nos têtes, on fait l'amalgame, ces notions sont liées pour nous. Il y a automatiquement progrès et innovation ensemble. Alors qu'en fait, le progrès a besoin d'innovation pour naître, c'est vrai, mais toute innovation ne constitue pas un progrès. Par exemple, on peut citer la bombe atomique qui n'est pas vraiment un progrès en soi. Donc il faut bien distinguer ces deux notions. La notion de progrès est une idée très moderne. Elle s'oppose à celle de stabilité qui dominait dans le passé. Et le progrès tend à se stabiliser. Édouard Herriot l'a dit, la tradition c'est le progrès dans le passé et le progrès dans l'avenir sera une tradition. Donc le progrès est une démarche qui doit s'installer sur une longue durée. La notion d'innovation, quant à elle, fait référence à un besoin ressenti de création, de quelque chose de nouveau. L'innovation est la réponse à un besoin de l'homme, un apport nouveau, quelque chose qui n'existait pas. Ça peut être aussi ajouter quelque chose à ce qui n'existait pas. Intéressons-nous maintenant à ces notions en Corse. Donc la Corse, de tout temps, elle a été une terre d'innovation, de par son positionnement géographique en premier lieu, parce qu'elle était en Méditerranée, donc il y a eu le fort développement du commerce avec l'époque romaine et toutes les époques qui ont suivi. Ensuite, il y a eu une période où elle a créé son innovation. Elle est allée chercher son innovation avec de grands hommes comme Pascal Paoli ou Napoléon de Bonaparte qui ont fait de grandes choses pour la Corse. Et de nos jours, l'innovation existe toujours, mais elle est beaucoup moins ressentie, beaucoup moins visible puisque c'est une innovation, je dirais, non technologique, donc qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est la seule que la Corse peut se permettre au vu de sa situation économique qui est plutôt difficile. Nous avons donc une terre qui a innové et qui continue d'innover. Mais nous avons aussi un peuple qui est peu enclin au changement. En effet, le changement est nécessaire pour la progression et pour l'innovation. Mais l'homme, en général, ne veut pas changer. C'est une loi immuable de la nature. Si tout se passe comme prévu, les êtres humains n'ont aucun problème à suivre le plan. Alors que dès qu'on a un imprévu dans la journée, ça peut nous gâcher toute la journée. Donc, c'est pour montrer que ce changement n'est vraiment pas la nature de l'homme. Et donc, le peuple corse ne déroge pas à cette règle. En effet, même au vu de sa situation, on est une toute petite île, on connaît un peu tout le monde, donc les changements sont pris très à cœur, très à bras le corps par les Corses. Et donc ça prend une dimension énorme. Et la Corse est une terre de tradition, il faut laisser un héritage, il y a quelque chose à transmettre, donc on ne veut pas que ça change. Donc le changement n'est pas le fort de la Corse, c'est quelque chose que nous ne réussissons moins bien que les autres, on dira. On peut le constater notamment avec le développement des énergies renouvelables qui ont été un projet qui a été très médiatisé, présenté comme la solution pour sortir la Corse de la zone rouge entre guillemets financière et qui finalement se révèle ne pas être aussi rentable que ça. Il y a aussi la grogne des Corses sur la bétonisation de l'île et le tourisme de masse qui commence à prendre beaucoup de place dans notre île. Donc on peut aussi remarquer cet esprit de conservation au travers de la culture et de la langue corse. La promotion de la langue corse qui, depuis le Reacquisto, a fait un chemin énorme puisqu'elle a obtenu maintenant la co-officialité. Donc c'est quand même notable. Donc au regard de ces éléments, nous nous sommes demandé si innover constitue un réel progrès dans une société qui est radicalement opposée au changement. Et donc pour répondre à ces questions, il nous a semblé essentiel de bien définir les notions importantes de cette problématique. En premier, nous avons défini un peu l'innovation en Corse. Qu'est-ce que c'était l'innovation en Corse? Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut remonter à l'époque romaine pour voir les premières innovations se développer en Corse, dans tout le bassin méditerranéen en général. Donc il y a eu l'agriculture, les Romains ont apporté les olives et tout ce qui s'ensuit. Ils ont participé à l'évolution de la langue aussi, qui était avant un patois un peu bizarre, qui est devenu après une langue latine. Ils ont construit des ports, des ponts, des villes, des stations thermales, comme à Ohrid, par exemple. Ensuite, au Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain, la Corse s'est fait envahir à plusieurs reprises. Et en réponse à ces envahisseurs, elle s'est fortifiée. Elle a créé des grandes murailles qu'on appelle les pièves maintenant. Donc elle était à l'époque, elle s'est calquée sur le modèle féodal, donc elle avait des seigneurs pour assurer la sécurité de ses pièves. Les Génois et les Pisans, qui sont arrivés juste après, ont beaucoup apporté à la Corse, à l'urbanisation. Notamment, ils ont beaucoup développé Bastia, qui deviendra le siège du gouverneur de Corse. Ils développent aussi l'agriculture à des fins commerciales. Donc l'innovation jusqu'ici, en Corse, a été vraiment, elle a suivi le mouvement, je dirais. Elle a suivi les vagues de peuplades qui sont venues et qui ont marqué de leur passage la terre. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'ensuite, la Corse a obtenu son indépendance. Et en 1757, Pascal Paoli, lui qui a été élu général de la nation et qui avait préalablement créé une constitution de la Corse, qui a été adoptée en 1755, fait devenir un modèle en Europe. C'est-à-dire qu'il a inspiré les Anglais et d'autres. Et donc il y a eu une institution, des magistrats, des tribunaux, des élections, le droit de vote aux femmes. Tout ça a été donné par la constitution. En 1758, il a créé le Rousse. Pour répondre aux Pisans et aux Génois qui continuaient de rester dans l'île et pour bien marquer sa volonté d'être indépendant. Il a apporté la pomme de terre, il a créé une monnaie pour la Corse. En 1765, il établit Corte en tant que capitale de la Corse et il a créé l'université où nous sommes aujourd'hui, qui porte d'ailleurs toujours son nom. Bon, il a ensuite dû quitter la Corse pour toujours. Et donc en 1801, Napoléon a suspendu la constitution qui a été faite par Pascal Paoli. Et il a redonné à Miot de Milito de refonder les lois. Et donc vous connaissez certainement les célèbres arrêtés Miot, qui viennent de lui. Il y a eu de grandes avancées sous Napoléon, notamment 2000 km de routes qui ont été réalisées, l'interdiction du port d'armes, la création des lignes de télégraphe et de distribution maritime du courrier, la construction des palais de justice de Bastia et d'Ajaccio, les délimitations communales et forestières, l'ouverture de la première caisse d'épargne à Ajaccio, et le développement de l'industrie minière et thermale. Donc, grâce à ces grandes figures, la Corse a vraiment su se développer, à innover, à créer, à inspirer les autres. Mais on voit que maintenant ce n'est plus tellement le cas. L'innovation diminue, elle est plus difficile. C'est dû principalement à la situation financière de la Corse. Parce que selon l'INSEE, le PIB de la Corse est en dessous de la moyenne des provinces et aussi de la région Île-de-France. Mais c'est une région qui innove quand même beaucoup. Malgré ce tissu économique défavorable, il y a des innovations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non technologiques, qui sont notamment des innovations organisationnelles, du marketing et des innovations de procédés. Donc c'est une innovation qui n'est pas visible, mais c'est une innovation qui ne coûte pas cher à mettre en place, enfin, qui coûte moins cher à mettre en place. Et donc la Corse s'est quand même dotée, il faut le noter aussi, de plateformes de développement d'innovation comme l'incubateur par exemple. Et donc c'est une région qui innove, moins que les autres, mais qui innove quand même. Nous nous sommes ensuite demandé comment définir la notion de progrès en Corse. Qu'est-ce qu'était vraiment le progrès en Corse ? Et nous avons trouvé une citation de M. Ernest Renan qui disait que les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé. Cette citation, quand on y réfléchit un peu plus près, elle s'applique dans tout ce que nous connaissons tous les jours, par exemple dans le sport. Il faut apprendre pour jouer au ballon, il faut apprendre à tenir le ballon au pied avant de savoir marquer un but. Dans la musique, il faut apprendre à savoir jouer, à savoir toutes les gammes, le solfège, avant de pouvoir écrire une chanson. Donc ces formes de progression que nous pouvons constater tous les jours ne sont pas les seules. Et nous avons constaté que la progression en Corse peut s'apparenter un petit peu, si vous voulez, à la progression qu'a eue à la Renaissance. Donc à la Renaissance, c'est une réunion du passé, de ce qu'il y avait de très bien dans le passé, et des sciences modernes qui ont été apportées. C'est une relecture de l'Antiquité. C'est aller chercher ce que le passé nous a donné de meilleur, et donc comme les travaux de Platon, Aristote, Cicéron, Virgile, Ovide, et ajouter des nouvelles techniques comme l'imprimerie, les mathématiques et d'autres sciences qui ont été rajoutées aussi. Pour aller chercher plus loin, pour comprendre ce qui a été la volonté de ces premiers auteurs. Cette confrontation du passé et de la modernité apportait un vent de renouveau culturel. De grands écrivains comme Rabelais, Montaigne, des peintres comme Mazas, Olipe, Sandro Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, Titien, sont nés de ces mouvements-là. Cela n'a pas changé que un patrimoine culturel, parce que c'est bien beau d'avoir des peintres et des sculpteurs, mais ça n'a pas changé que ça. Il y a aussi des changements dans l'économie. Le commerce en Méditerranée s'est renforcé. Des inventions comme l'horloge mécanique, la verrerie, tout ça qui a permis d'expandre un peu plus ce commerce, notamment. Et il y a eu la découverte de nouveaux territoires. c'était en fait un recentrement sur l'être humain. Et donc on peut dire que l'accord s'inspire de ce système d'innovation et de progrès pour apporter un vent de renouveau à notre culture et à notre héritage, mais en conservant une certaine authenticité de ce dernier. Notamment, on peut citer le Reacquist, qui donc, à la suite de l'interdiction de la langue corse après la Seconde Guerre mondiale, qui était considérée comme fasciste, il y a eu cette volonté du peuple corse de retrouver cette langue, de la réofficialiser, de la faire renaître. Donc ça a commencé dans les années 70, avec une revue montanaise et qui n'a pas eu un grand succès, mais qui a quand même inspiré beaucoup de Corses. Et donc ce nom, le Reacquist, qu'on peut traduire par réacquisition, réappropriation, vient de la volonté donc justement de se réapproprier cette culture, comme si nous l'avions vraiment perdue. Pour pas que la langue disparaisse, des cours de Corse ont été dispensés dans les universités d'Aix, de Nice, sur le continent, même à Paris. Et avant que les cours soient refaits en Corse, finalement, à l'université de Corte. Et la langue, qui avait perdu sa légitimité, qui avait été sortie de la loi d'Exone, y est rentrée en 1974. Donc, au niveau culturel, c'est la période où les grands groupes de chants corse sont nés. Kanta Ogopoulogos, le premier. Ensuite, suivi des Tiama Dialès et des Diana Dilalba, notamment. Mais par contre, il faut savoir qu'à cette époque-là, toute la Corse n'était pas unie. Ces groupes n'avaient pas le droit de se produire dans certaines villes ou à escorter de CRS et de policiers. Donc c'était quand même quelque chose de pas vraiment encore, ils se battaient encore pour l'acquérir. Il y a aussi malheureusement les événements d'Aléré qui sont à citer dans ce passage. Vous n'êtes pas sans les connaître, que quelques dizaines d'hommes armés menés par Edmond Siméoni, le leader de l'action régionaliste corse, sont allés dans une cave viticole et ont pris possession des lieux armés. Des CRS, des blindés, des hélicoptères sont venus pour tenter d'y mettre fin. Après plusieurs jours d'affrontement, il y a eu deux morts et des blessés. Les nationalistes sont rendus. L'ARC a été dissoute et après beaucoup de violence dans Bastia, il y aurait eu notamment la création du FLNC. Donc on peut dire que la Corse n'est pas vraiment similaire en tout point à la Renaissance. Elle s'inspire de ce système pour progresser. Bon, après, on peut dire qu'il y a eu des dérives, on peut dire que le nationalisme est né de là. Ça, personne n'a la vraie réponse. Ensuite, nous nous sommes demandé comment définir le changement en Corse. Et dans la suite de ce que je viens de dire sur le progrès, pour qu'il y ait du progrès, il faut qu'il y ait changement. C'est comme ça. Et le changement en Corse n'est pas une chose facile. Pour l'être humain en général, ce n'est pas une chose facile. Charles Franklin Kettering l'a dit, le monde n'aime pas le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Donc ça illustre la dichotomie qu'il y a entre ce que représente le changement pour l'homme et ce que ce dernier est vraiment pour l'avancée du monde. Et donc l'accord s'installe en plus dans une démarche de changement discrète et sur le long terme. Comme la Renaissance, dont on parlait un peu plus tôt, ça ne s'est pas fait en 3 jours. Hein. Il a fallu 3 siècles et ça a perduré jusqu'à nous. Donc la Corse prend son temps, fait son chemin lentement mais sûrement. La Corse est aussi une région qui a été très cultivée, très agricole. Il y a une analogie qui est souvent faite entre les cycles naturels et le changement. Si l'on bouleverse les cycles naturels, les récoltes seront beaucoup moins bonnes, voire inexistantes. Et pour les Corses, ce système s'applique aussi au changement. Il y a une pensée commune qui tendrait à dire que si on change les choses, ça peut avoir des conséquences sur la vie et elle ne soit plus jamais comme on la connaissait. Donc certains pensent que ça nous vient d'un esprit de conservation, donc suite à toutes les invasions que nous avons eues, un esprit de fermeture, je dirais, entre guillemets. D'autres disent qu'on est réfractaire au progrès. Mais c'est plutôt une appréhension du changement pour moi. Je pense, au vu de ce que j'ai trouvé, c'est plutôt une appréhension du changement. Il faut aussi dire que nous sommes rentrés dans une période de mondialisation, avec notamment l'invasion du monde par le Made in China, hein, vous n'êtes pas sans connaître ces produits. La Corse veut conserver quand même son patrimoine. On sait qu'au niveau architectural, notamment, c'est très, très méditerranéen. Mais bon, elle évolue quand même petit à petit. Elle suit les courants de mode, quels qu'ils soient, comme les vêtements, les voitures, tout ça. Il faut donc laisser le temps faire son travail et le changement s'installer tout doucement sur le long terme. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, je vais vous poser une petite question pour commencer. Qu'est-ce que pour vous, c'est l'innovation ?
Je pense que l'innovation, c'est quand même primordial. C'est le but de tout le monde. Et dans les entreprises, vous avez parlé de ce rapport entre innovation et progrès. Parce que dans les entreprises, souvent, ils intègrent la notion de progrès à cette innovation. C'est-à-dire que ils innovent pour progresser. Donc quand une entreprise va dire nous avons innové, sous-entendu nous avons progressé. Après, il est vrai que certaines fois, une innovation peut être néfaste et n'amène pas forcément le progrès. Mais je pense qu'il est quand même primordial d'innover parce que, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Donc je pense qu'il est vraiment primordial d'innover de nos jours.
C'est primordial, mais aujourd'hui, la tendance à vouloir innover à tout prix, comme tu l'as dit, ça peut causer certains problèmes. Et au contraire, d'emmener le progrès, ça va nous faire revenir en arrière, voire ça va nous entraîner des difficultés, comme nous, ce qu'on a vu dans nos recherches sur l'agriculture, où certaines innovations qui apportent un progrès dans certains domaines entraînent à côté de ça des régressions assez fortes dans d'autres domaines. Donc la tendance à l'innovation à tout prix, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait remettre en cause et peut-être au lieu de vouloir innover sans cesse, plus réfléchir aux innovations qu'on va apporter et réfléchir avant d'innover. Quoi. Ne pas lancer quelque chose pour en connaître les conséquences, mais réfléchir en amont pour pouvoir peut-être anticiper les conséquences.
Innover cause aussi des problèmes, notamment dans le domaine du tourisme. Par exemple, on innove beaucoup, on attire plus de touristes, mais cela peut causer des problèmes. Donc ce n'est pas forcément un progrès, notamment au niveau des ressources. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un projet de golf en Malagne, de créer un deuxième golf. Cela attire les touristes, notamment le tourisme de luxe, mais en été, notamment, ça consomme beaucoup d'eau. Et nous savons que nous sommes une région assez sèche et qu'il n'y a pas assez d'eau, donc ce serait un progrès pour le tourisme de luxe, mais cela poserait des problèmes de ressources.
Ah ouais, mais si c'est un progrès, je veux dire, au moins on fait progresser au niveau du tourisme, on a des hôtels, on fait marcher l'économie.
Et ça fait progresser l'économie, mais ça fait régresser l'environnement.
Oui, mais après, on resterait dans une stagnation. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir au monde pour vraiment connaître des innovations, c'est évoluer et connaître donc le changement. Donc moi, je pense personnellement qu'il ne faut pas absolument innover, c'est vrai, mais il faudrait peut-être connaître un changement, donc de par les innovations, pour réellement progresser. C'est sûr qu'il faut prendre du recul, mais surtout, je pense qu'il faut changer pour vraiment évoluer.
Moi, je pense que l'innovation sur le territoire Corse, c'est surtout jusqu'ici quelque chose qui va permettre justement à la Corse de s'ouvrir sur le monde lui-même. Admettons au niveau de l'éducation, comme nous avons pu le voir avec ma collègue Madame Bonenfant, l'éducation en Corse qui commence à s'ouvrir, ne serait-ce qu'au niveau de l'anglais, qui va commencer à s'installer d'ailleurs dans nos structures éducatives, est quelque chose de très important.
Oui, en effet, c'est très important puisqu'on va pouvoir, avec l'anglais dans les universités, s'ouvrir au niveau international. Le seul problème, c'est que en ce moment, la Corse fait passer la co-officialité de la langue et ce serait peut-être, ce ne serait pas vraiment un progrès par rapport à la langue corse, puisque ça voudrait dire que déjà la France essaierait de garder le français comme langue et nous, à l'échelle de la Corse, ce serait vraiment délicat. D'essayer de protéger notre langue. Donc je pense qu'il faut vraiment mesurer au niveau de l'innovation les conséquences. Il est clair qu'elle est très importante dans une économie. Il faut innover pour apporter des changements et des améliorations, mais il faut bien comprendre que l'innovation n'est pas synonyme de progrès et qu'il faut vraiment mesurer l'importance des conséquences négatives que peut avoir parfois l'innovation.
Alors Mélanie et Marie, vous avez travaillé sur le tourisme notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le tourisme ?
Donc comme vous le savez, l'économie de la Corse est surtout basée sur le tourisme, donc plusieurs formes. Certains viennent pour nos stations balnéaires, d'autres pour nos sentiers de montagne, d'autres simplement pour découvrir la culture corse. Beaucoup de régions de France innovent, ce qui constitue une concurrence assez forte pour la Corse. Bien que ce soit une destination coûteuse, les touristes affluent toujours en Corse. Mais cette augmentation de la population en saison nécessite des innovations donc, pour attirer toujours plus de touristes et peut poser des problèmes importants.
Oui, comme tu as dit tout à l'heure, la pétition pour le projet en Balagne pour le golf, comme tu as dit, ça fait des sécheresses et tout, donc du coup...
On peut aussi... Pardon, si tu veux.
Pour attirer toujours plus de tourisme, il y a une tendance qui tend à utiliser l'identitaire pour attirer justement les touristes. Par exemple, le domaine de Mourtes, ce sont des bergeries, des paillades, qui sont allouées, qu'ils ont retapées, et ils sont alloués
des hôtels qui sont faits sur d'anciennes bâtisses.
Et est-ce qu'avec ce que vous avez recherché, vous pouvez expliquer la grogne, je dirais, des Corses vis-à-vis des touristes qui pensent qu'ils sont toujours là, qui ne devraient pas être là, quoi.
Ça, je pense plutôt que ça vient de notre culture. Étant donné que la Corse est une île qui a été beaucoup de fois envahie, je pense que le flux de touristes qui arrive l'été, c'est ancré dans notre culture. Depuis tout le temps, la Corse a été envahie par les Maures, par les Génois. Elle n'a été que très peu de fois indépendante. Donc je pense que c'est dû à ça qu'il y a une certaine appréhension des touristes qui arrivent l'été. Mais après, ce n'est pas une généralité. Il y a beaucoup de gens sympathiques. Enfin, ça fait vivre notre économie quand même.
Donc tu es d'accord avec moi qu'il faut qu'on change pour vraiment connaître le tourisme, donc l'économie. Grâce au tourisme, on sait que l'économie de la Corse vit, en fait. Donc moi, je pense qu'il faudrait peut-être changer les mentalités, évoluer les mentalités corses pour pouvoir, en fait, vraiment avoir une bonne économie de la Corse.
Oui, mais il faut innover, mais dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il faut mesurer les risques, il faut contrôler quand même.
Oui, je suis d'accord.
Sinon, on va se retrouver comme sur la Côte d'Azur avec des plages bétonnées.
Oui, mais bien sûr, ça, je suis d'accord qu'il ne faut pas changer le littoral.
Parce que ce qui attire justement les touristes ici, c'est que c'est une île naturelle préservée. Donc, si on commence à bétonner de partout, ça va attirer dans un premier temps plus de tourisme. Mais dans un second temps, ils ne vont plus venir ici. Ils vont venir sur la Côte d'Azur ou dans des lieux qui sont à peu près pareils.
Oui, mais alors... Je suis d'accord qu'il ne faut pas changer les littoraux, je suis totalement d'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas changer les mentalités? Parce que bon, les mentalités...
On ne peut pas changer les mentalités, les gens sont comme ils sont.
Oui, bien sûr. Oui, mais bon, comment dire, au moins, grâce avec maintenant, avec les grandes évolutions du monde, des technologies, etc., on peut voir quand même qu'il y a un changement au niveau social.
Oui, il y a eu un changement. Donc, peut-être Internet, les gens sont beaucoup plus connectés, on ne vit pas de la même manière qu'il y a 50 ans.
Et ne pas être fermé à l'extérieur, c'est-à-dire par exemple, pour ton sujet, les touristes. Comment dire, on ne doit pas avoir une relation.
Mais je trouve qu'on n'est pas
fermé, moi. Oui.
Il y a certains cas qui... Oui, c'est sûr que ça nous embête des fois quand les touristes viennent l'été. Mais au fond de nous, c'est quand même bien parce que ça nous fait quand même de l'argent, ça nous fait marcher l'économie.
Voilà.
Mais le seul problème, c'est que si on s'ouvre un peu trop, on va devenir un peu comme sur le continent, pour ne serait-ce que gagner un centime, par exemple les plages, elles sont toutes privées. Tu peux même pas te mettre ta serviette, il faut que tu payes.
Oui.
Donc voilà, après, il faut voir ce qu'on veut. Quoi.
C'est sûr, mais bon, peut-être... Moi, je te parle pas trop des littoraux, comme tu m'as dit, tu vois. Oui, c'est un exemple comme un autre, certes, mais je pense qu'il faut pas non plus se fermer au monde pour... Parce que sinon, on ne vivrait pas. On ne peut pas vivre.
On n'est peut-être pas fermé. La grande majorité des entreprises en Corse comptent réellement sur ces touristes et ont une saisonnalité très forte. Notamment des entreprises qui peuvent tripler leur chiffre d'affaires sur un mois, au cours des mois de juillet et août, par exemple. Donc, je crois vraiment. En tout cas, les entreprises ne sont pas fermées à ce tourisme.
Pourquoi la population elle est fermée? Parce que face à toutes ces... Enfin, les entreprises, on sait qu'elles vivent de par le tourisme et de par beaucoup de choses, comme l'agriculture, par exemple. Et pourquoi les mentalités restent fermées? C'est-à-dire qu'on dit, on sait très bien, quand des touristes vont dans un village... Et je le sais, qu'on presque ils demandent une indication, on l'emmène vers l'autre, l'opposé, où ils sont pas du tout sympathiques, etc.
C'est faire une généralité, ça. Oui. Ça, c'est parce qu'il y a les touristes n'ont pas la même mentalité que nous, ils n'ont pas la même manière de. Enfin, c'est normal. Et on a toujours peur de ce qui est différent. Mais après, il y a des gens. Enfin, la nature corse, c'est d'être hospitalier, d'accueillir les gens.
Je pense que. Enfin, j'ai pas vraiment étudié le sujet, mais. Je pense que beaucoup de citoyens ne prennent pas en compte vraiment l'apport économique que les touristes apportent. Et c'est sûr que si on oublie cet aspect-là, forcément, bon, les touristes, ils viennent, ils prennent de la place. Donc ça peut être dérangeant quelque part. Mais voilà, cet aspect est essentiel et on ne peut pas les mettre dehors.
Oui.
Donc on ne peut pas le nier, il faut innover. Mais dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger nos ressources ou nos capacités à accueillir les gens. C'est sûr que si tu mets 3 à 4 millions de personnes l'été, on ne va pas s'en sortir.
Oui, c'est sûr.
Alors, Thomas et Frédéric, vous travaillez sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches ?
Bah donc nous, on a trouvé ce que je voulais illustrer tout à l'heure, que l'innovation n'est pas forcément synonyme de progrès. Parce que l'agriculture, elle a connu différentes innovations au niveau des engrais, de la mécanisation, des labels qui sont aussi une innovation.
Des innovations de marché aussi, hein, on voit qu'on s'exporte de plus en plus. Et justement, face à cette demande augmentante due à cette exportation, on ressent le besoin d'innover, notamment au niveau mécanique. Avec une nouvelle ligne de production plus mécanisée, etc., pour produire plus, toujours.
Mais voilà, cette tendance à vouloir produire plus, ça a peut-être nuit, dans une certaine mesure, à ce pourquoi les produits corses étaient connus, pour leur qualité. Donc là, on peut voir une tendance à revenir à des procédés plus traditionnels, qui vont peut-être moins permettre de produire en forte quantité, mais de meilleure qualité. C'est ce qu'on voit peut-être avec le bio, qui permet de produire avec des techniques qui respectent la nature, qui respectent le produit. Donc c'est une tendance qui commence à arriver en Corse, même si le bio, ça peut être une difficulté pour les entreprises corses, qui sont donc souvent de petite taille, et ça peut leur imposer des contraintes supplémentaires qui peuvent aussi nuire. Donc ça aussi, c'est une innovation. Il faut mesurer, c'est compliqué, il faut toujours peser le pour et le contre.
Attention, le bio peut paraître une innovation comme ça, mais on s'est vite aperçu que pour les agriculteurs, en allant sur le terrain, en discutant avec eux, ils considéraient plus le bio comme une réponse justement à des innovations qui n'auraient pas apporté de progrès, qui auraient dénaturalisé un peu le produit, nuit à sa qualité. Et donc justement imposer des règles comme ça grâce au label qui impose des règles aux entreprises pour justement revenir à des procédés peut-être un peu plus traditionnels avec de la nourriture normale pour les animaux, pas des farines animales, etc. Pour justement retrouver un certain gage de qualité.
Et un peu un retour aux sources.
C'est ça.
Comme un remède à des innovations qui n'auraient pas marché que comme une innovation à part entière.
D'accord.
Mais est-ce que c'est vraiment progresser alors? Parce que bon, innover avec revenir à l'histoire.
Toi, tu penses que le progrès, c'est peut-être toujours aller
Autre chose,
mais peut-être que le progrès dans certains domaines, il était déjà avant. C'est peut-être que les innovations qu'on a apportées, elles nous ont emmenées dans une direction qu'on pensait être le progrès, et puis au final, on se rend compte que c'était mieux avant. Donc, c'est pas forcément mauvais de revenir à des pratiques qui marchaient mieux, et on s'en rend compte plus tard.
Mais du coup, vu que la population augmente, si on produit moins, il va y avoir un problème. Et pour produire plus, il faut utiliser des machines,
Et c'est là où l'innovation doit jouer son rôle et apporter des réponses à cette question.
Sans peut-être justement nuire à la qualité, parce que bon, la qualité c'est le plaisir du produit, donc on va avoir ça va être meilleur, tout ça, mais il y a aussi sur le plan sanitaire, tout ce qui est les pesticides et tout, on sait maintenant que
c'est mauvais, mais on en mange quand même tous les jours.
Oui, mais peut-être qu'on se rendra compte dans quelques années que c'était vraiment pas bon. Là on est dans une tendance où l'espérance de vie augmente, peut-être qu'avec cette alimentation on se rendra compte dans quelques années qu'elle stagne parce qu'on s'alimente mal et que...
Alors ben, Aurélia et Alexandra, vous avez travaillé sur l'éducation en Corse.
Voilà, nous on est basé sur l'étude de l'innovation et du progrès à travers une Corse à la fois progressiste et identitaire, donc sur le thème de l'innovation toujours. Nous en avons donc décelé qu'il y avait de par ces deux idées, des points à la fois favorables et défavorables. Donc comme vous l'avez dit, des points défavorables, pourquoi? Parce que ben, la Corse va sombrer sous la bétonisation si on ne conserve pas notre environnement, notre terre, nos beaux arbres. Le fait de préserver une idée identitaire au niveau de la langue, ce serait oui, effectivement, un plus. Et donc nous l'avons vu d'ailleurs auprès de plusieurs innovations, comme l'Université de Corse qui a, admettons, mis en place des projets comme le projet MIRT, qui est un projet de panneaux voltaïques qui reprend en...
En fait, c'est un projet expérimental qu'ils ont mis en place pour...
Pour stocker l'énergie, voilà,
voilà sous forme d'hydrogène. Pour stocker l'énergie sous forme d'hydrogène afin de la réutiliser quand il y a des pics d'activité au niveau de la consommation. Et ça a été mis en place donc, en partie par l'Université de Corse, donc c'est vraiment une innovation importante quand même, mais on peut en observer certaines limites. Par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que l'hydrogène apporte de la pollution et ils ne sont pas complètement pour. En plus, ça dégrade l'environnement. Donc certains sont pour, certains sont contre. C'est vrai que c'est vraiment une grande innovation, mais voilà, ça coûte très cher, ça dégrade l'environnement et au niveau de la pollution, il y a encore quelques... Enfin, on n'est pas sûr que ce soit complètement écologique. Donc c'est vrai que c'est une innovation, mais en même temps, il y a des réserves, comme finalement un peu toutes les innovations. Et c'est vrai que l'université essaye d'être vraiment dynamique à ce niveau-là et de développer plusieurs projets.
En partenariat.
Voilà, pour justement développer toutes ces innovations.
Et donc, vous avez parlé de l'université. Est-ce que, selon vous, elle a pris une importance plus grande au fur et à mesure des années en Corse? Parce que vraiment...
Oui, parce que l'université, donc, comme j'ai dit, essaie vraiment de développer l'innovation. Il y a plusieurs projets qui sont mis en place. Et c'est à l'université qu'on fait de la recherche et qui, après, va permettre aux entreprises de se développer et d'utiliser ces innovations. Donc l'université fait en sorte de
garder son peuple
de progresser.
Oui.
Mais tout en, voilà, d'un autre côté, elle veut, notamment à travers la préservation de la langue, elle veut garder son côté identitaire et qu'elle met vraiment en avant.
Mais au niveau de la langue, il va passer une loi comme quoi ça va être obligé de faire de l'anglais, je crois, à moitié, au moins dans les trucs de gestion et tout. Est-ce que ce ne serait pas contradictoire, justement, à obliger le Corse à l'école? Parce qu'en faisant ça, on pourrait à la limite obliger le Corse à être... Enfin, on est en Corse. Ce serait quand même plus logique de privilégier le Corse avant l'anglais.
Alors, c'est complètement un sujet d'actualité. Et c'est vrai que c'est important de parler anglais dans nos universités, puisque ça va nous permettre de faire venir des étrangers. Et ça va nous permettre, nous, de travailler après, plus tard, à l'étranger ou en partenariat avec d'autres universités. Mais c'est vrai qu'après, il y a ce problème avec la langue corse que finalement, si l'anglais s'installe déjà dans les universités françaises, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment la langue corse va-t-elle pouvoir
se
faire sa place, finalement, au milieu de l'anglais, qui est quand même
une langue
importante. Donc...
Moi, je pense qu'il ne faut pas le mettre le Corse vraiment obligatoire, parce que ça ne doit pas être une obligation de faire du Corse. Je vois pas le principe. On a le choix de choisir des langues, comme dire au collège, on le sait très bien. Et de rendre obligatoire une langue, sans peut-être... certaines personnes ne sont pas vraiment aptes à parler ou pas vraiment...
Je suis pas d'accord. Quand tu vas en Espagne, tu parles espagnol. Quand tu vas en français, tu parles français. Quand tu vas aux États-Unis, tu vas parler anglais. Mais quand tu vas en Corse, au moins les Corses, pas les étrangers.
Aujourd'hui,
mais au moins les Corses soient obligés de parler leur langue.
Je sais que là, ce que je vais dire, je vais me faire tuer. Mais je vais juste dire un truc. La Corse, c'est pas un pays. Tu es d'accord avec moi? Là, tu dis les exemples des États-Unis, de l'Espagne. De l'Espagne, de la France,
mais sauf que la Corse, c'est pas une langue. Si tu vas à Barcelone, si tu leur parles espagnol, ils ne répondent pas. Il faut leur parler catalan. Pourtant, c'est une langue régionale. Ils accordent cette importance à leur langue, alors que nous, on a quand même été indépendants et on n'accorde pas cette importance à notre langue. Donc, je ne trouve pas ça normal.
On a une langue qui
je
maintenant.
Trouve ça bien que ce soit obligatoire.
On a une langue qui maintenant est co-officielle. Et justement, c'est là où intervient l'obligation de l'apprendre en cours à l'université. Ne serait-ce que, je crois que l'année prochaine, on va avoir une section qui va s'ouvrir pour le journalisme. Avec la corsophonie très présente dans les études, et les journalistes ou les employés de mairie, toutes les institutions auront l'obligation de pouvoir accéder aux demandes des clients en Corse à cause de ce régime co-officialité.
Mais là, alors on se ferme encore, la Corse se ferme encore, c'est-à-dire que ça veut dire si elle a une autre langue, on ne peut pas s'ouvrir. Si par exemple personne parle corse dans
c'est pas officiel.
Plus tu parles de langue, plus tu t'ouvres au monde. Au contraire, plus tu sais parler de langue, plus tu as une base pour les autres langues.
D'accord, mais des langues connues
et
dans le monde.
Pas
des
langues,
même si c'est une région, ça t'aide quand même, même dans ta région. Même les étrangers qui viennent, s'ils apprennent le corse, ça facilite leur intégration.
C'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu barbare d'obliger à parler corse. C'est vrai que bon, il y a certaines personnes qui parlent pas du tout corse, mais je pense que ça provient d'un réel profond de sauvegarder la culture corse, parce que comme on peut l'observer sur le continent, dans certaines régions, la culture a été complètement abandonnée. Et je pense qu'il y a une réelle envie en Corse de protéger sa langue et sa culture, et ce qui est très important. C'est vrai que ça peut porter à confusion. On veut obliger l'anglais, on veut obliger le corse. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de faire un mixte des deux. De laisser le choix, mais je pense que c'est important aussi de préserver la langue corse, même si tout le monde ne la parle pas.
Mais ça
ne
doit pas être une obligation de préserver la langue corse. Comme on dit, oui, moi je suis d'accord, il faut préserver notre culture, c'est obligatoire. Même si c'est pas mon thème de ce que j'ai fait. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas forcément la rendre obligatoire pour qu'elle soit encore en vie, dirons-nous. Plus de laisser le choix de certaines personnes, même ici, qui sont pour la langue, qui sont pour protéger, pour la parler tous les jours, dirons-nous. Mais il y en a certains qui sont, viennent d'ailleurs, elles ne peuvent pas parler une autre langue que...
Mais justement, quand tu vas dans un pays, ça facilite ton intégration de parler la langue du pays.
Mais tu ne vas
pas aller en Chine et leur parler français. Enfin, encore, peut-être qu'ils comprendraient, certains comprennent. Mais au contraire, ça facilite l'intégration des étrangers et ça permet en plus à nous de préserver notre langue.
Sauf que là, tu donnes encore l'exemple
obligatoire. Il y a de moins en moins de personnes qui vont la parler et ça va se perdre. Ça permet aux étrangers d'apprendre et de mieux s'intégrer. Et aux Corses, justement, de permettre de préserver leur langue et leur culture. Pour moi, ça a tous les avantages.
On va couper court à la bataille. On a bien répondu à toutes ces recherches. Maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser à l'un d'entre nous ou à nous tous? On vous écoute.
À un moment, dans ton article, au début, tu as parlé de loi d'Exon, c'est ça?
Ouais.
Et c'est quoi?
Alors, la loi d'Exon, en fait, c'est une loi en fait, sur tout ce qui est langue, tout ce qui est officiel, en fait, tout ce qui est reconnu. Et en fait, la loi d'Exon, elle a donc en 1951, je crois, elle a sorti la langue corse, elle est sortie. Donc après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils considéraient que en fait c'était une langue fasciste. Alors ça. Et en fait donc pour qu'on ait le droit de la parler librement, il fallait qu'elle soit là. Sinon c'était interdit de parler le corse. Il n'y avait pas le droit. C'était interdit. Ils pouvaient le parler dans la rue. Si personne t'entend, tu parles avec ton voisin, tu le parles en corse, ça va rien changer. Mais de parler par exemple dans une mairie ou tout ça, de parler en corse, c'était répréhensible par la loi. Et de la loi d'Exon, en fait, quand elle est re-rentrée dedans, ça a permis c'était plus interdit. Il y avait le droit de l'enseigner dans les écoles, de le parler librement, de l'écrire. Et voilà. Bon, après, maintenant, la co-officialité a rendu, en plus, tu as le droit maintenant d'aller demander, par exemple, ta carte grise en Corse. Dans une institution, tu as le droit de parler corse aux fonctionnaires ou aux gendarmes, ou à tout ça. Voilà, la loi d'Exon, c'est ça. Oui.
Est-ce que l'obligation d'apprendre le corse à l'école ne va pas assimiler l'obligation de parler anglais, en fait, alors que normalement ça devrait se faire plus naturellement de parler le corse. Essayer de l'intégrer plus naturellement. C'est à nous, corse, de vouloir remettre en fait, notre langue, de vouloir reparler notre langue. Est-ce que l'obligation ne va pas froisser en fait, les Corses avec leur propre langue?
Non, parce qu'en général, les Corses veulent sauver leur langue, plutôt.
Peut-être que toi, tu as réussi, on t'a toujours parlé le corse ou quand tu étais petite, mais ceux qui ne l'ont pas appris, ça devient une langue scolaire, en fait. Alors, est-ce que ça ne posera pas un problème plus tard?
C'est sûr que le corse scolaire, ce n'est pas le même que le corse qu'on parle, que nos grands-parents nous ont appris et tout. Mais ça permet quand même de préserver un peu la langue, même si elle a évolué. On voit notamment qu'il y a eu des nouveaux mots, genre pour dire ascenseur, je crois que c'était coulatog, un truc comme ça. Des mots qui n'existaient pas avant, donc la langue évolue.
Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que justement le fait de rendre obligatoire la langue corse, ça rebute un peu les gens et qu'ils n'aient pas envie. Mais en fait, quand on regarde dans les sondages, on se rend compte que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou même à l'université, les cours de corse sont de plus en plus fréquentés. Donc finalement, c'est pas...
Parce que c'est presque... Mais... Lorsqu'on parle de la langue corse, on dirait, si on est contre, on dirait presque que c'est dramatique, qu'on ne se sent pas
corse, etc. En même temps, c'est ridicule d'être contre une langue. Voilà. Tu peux ne pas la prendre.
Non, je suis d'accord avec toi.
Tu peux être contre des idées, tu peux être contre ça, mais tu peux pas être contre une langue.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système.
Tu peux aimer ou ne pas aimer, mais tu peux pas être contre.
D'accord. Non, j'arrête pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Après, peut-être que obliger l'anglais ici, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, parce que on va peut-être pas, la Corse elle peut peut-être pas exporter jusqu'en Angleterre ou dans des pays comme ça, mais peut-être dans le bassin méditerranéen, peut-être l'italien ou l'espagnol ou des langues qui sont plus proches.
Oui, non mais je
te dis, enfin ça, je dis qu'ils veulent rendre les cours obligatoires en anglais, par exemple pour la gestion ou pour le commerce. On est d'accord que c'est rare d'exporter jusqu'en Angleterre ou on va dire en Norvège par exemple.
Mais c'est la langue internationale du commerce.
Oui.
Obligatoire le corse encore.
Ouais.
Et si tu te mets au niveau de la France, ça veut dire que tu dois rendre obligatoire l'occitan, le basque, le breton, je sais pas, l'alsacien et tout. Mais sauf que tu peux pas, parce que par rapport à la cité de la Catalogne, c'est pas du tout le même statut des régions. Ils ont beaucoup plus de pouvoir en Espagne qu'en France. Donc pour moi, mettre la langue corse obligatoire, c'est impossible pour l'instant.
Il y a beaucoup d'écoles bilingues maintenant. Et puis même si on n'a pas le pouvoir, c'est pas une question de pouvoir, c'est une envie de préserver notre langue. C'est pas parce qu'on a du pouvoir qu'on ne doit pas parler corse. On doit parler corse.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être un peu plus centrées sur l'innovation, parce que bon, la langue corse.
Oui, plus avant, c'était là-dessus. Vous voyez que très rapidement, la notion de progrès a dévié sur la langue. Il y a quand même un lien que vous avez établi entre les deux, c'est que sous l'anglais, le progrès, à chaque fois vous avez dit, il faut s'ouvrir. Le progrès doit venir de l'extérieur. Et notamment, par exemple, la langue anglaise, qui serait quelque chose qui nous arrivera de l'extérieur, serait une marque de progrès. Alors justement, est-ce que l'innovation, ce qui sera un progrès encore, ce serait que les innovations ne naissent pas ici, plutôt que de vouloir toujours les attendre de l'extérieur?
Et puis surtout que, enfin, de sans cesse attendre le progrès de l'extérieur, avec par exemple tu dis l'anglais, si demain le monde entier parle anglais, ce qui impliquerait que le modèle soit entièrement diffusé, on penserait tous pareil. Donc si tout le monde pense pareil, en général ceux qui innovent, on a vu, c'est ceux qui ont une pensée différente, parce que par définition, si on est tous dans le même système de pensée, personne ne se démarque.
Non, mais
donc voilà, c'est ce qu'on dit. C'est peut-être que sans cesse attendre le progrès de l'extérieur, peut-être que le progrès, il est chez nous. Peut-être que si, en reparlant le corse, on se rapprocherait de quelque chose, ça nous permettrait de mettre en place un modèle qu'on pourrait peut-être diffuser, qui serait peut-être accepté. Parce que à un moment donné, la Corse, tu parles par rapport aux États-Unis. Enfin, je ne sais pas si tu sais, la constitution des États-Unis, elle est largement inspirée de celle qui a été faite en Corse par Pascal Paul. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une petite région qu'on n'a pas un potentiel d'innovation et un modèle à diffuser dans le monde. Donc, voilà, se baser sur le fait que les États-Unis, c'est la première puissance, c'est un pays, un grand pays, oui. Mais ils n'ont pas forcément toutes les réponses à tous les problèmes.
Je suis d'accord avec toi.
Et à force de sourire vers l'extérieur, on prend aussi peut-être le risque de perdre tout ce qui nous caractérise.
Comme il a dit, c'est intéressant parce que à l'époque de Pascal Paul et tout, ça a été un modèle pour le monde. Alors est-ce que à travers cette réappropriation de la culture et de la langue, on ne va pas peut-être retendre à aller vers des gens comme ça? Bon, après, je ne dis pas qu'on va ressortir un Pascal Paoli dans 10 ans, ça m'étonnerait, mais est-ce que voilà, cette réappropriation, comme je l'ai dit, un peu comme la Renaissance, est-ce que ça ne va pas tendre à amener quelque chose qu'on pourra apporter aux autres?
Oui, je suis d'accord, qu'il ne faut pas trop peut-être pas trop s'ouvrir vers le monde pour ne pas perdre son authenticité et le charme en fait, de la Corse. Je suis totalement d'accord avec ça.
Faut pas forcément que ce soit le monde qui vienne à nous, mais on peut essayer de
voir
de porter. Mais oui, mais si après on n'a plus rien à apporter...
Oui, mais il faut faire...
Si on va être...
On va laisser Léa poser la question.
Alors, moi, c'est un autre sujet dont vous avez parlé. Vous avez parlé d'une part du littoral, et d'une autre part du tourisme. Mais on voit bien que la loi préfectorale qui est passée ou qui va passer condamne un peu, c'est-à-dire les fêtes sur la plage, parce que, soi-disant, ça détruit le littoral. Mais, donc, à Beyond the Rock, dont vous avez parlé, c'est quelque chose qui attire énormément de gens de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'international. Donc, en fait, ça se contredit un peu. C'est-à-dire que, d'un côté, la Corse bénéficie justement d'atouts pour attirer le tourisme, et d'un autre côté, elle veut préserver son littoral. Donc, c'est un peu contradictoire. Je comprends. Enfin, comment...
Ben, c'est ça, innover, en fait, c'est pas forcément progresser. C'est-à-dire que on innove, ça peut marcher, les bars, tout ce qu'il y a sur la plage. Quand Beyond the Rock, je crois que c'est la moitié de leur chiffre d'affaires de l'été, les bars qui sont sur la plage, ils sont là. Mais ça cause un problème au niveau des plages, tout ça, après, mais c'est le même problème que celui des ressources.
Parce que la fatigue doit se faire.
On accueille beaucoup de touristes, on a des problèmes de ressources. Donc il faut innover pour trouver des solutions à ça.
Mais justement, en termes d'innovation, les plages, vous dites qu'elles sont abîmées, je dirais, qu'elles sont un peu saccagées.
Et après,
il y a des équipes de nettoyage qui passent des jours entiers à nettoyer les plages.
Mais ça fait passer de voir ta plage dans un état médiocre.
Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai, c'est contradictoire.
Si elle
nettoie
bien après. Les équipes, je suis un peu, je dis, ils respectent
rien.
Mais s'ils le font, après, on va les faire de rien. C'est ça le problème.
Après, je veux dire, comme c'est un peu pareil qu'une entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle va faire des sacrifices pour justement faire un chiffre, pour faire de plus en plus de...
Mais c'est exactement ça, c'est savoir ce qu'on est prêt à sacrifier.
Voilà,
c'est ça qui est difficile à mesurer. Et si, comme tu dis, il faut absolument améliorer l'économie en passant par le tourisme ou en conservant la qualité de vie qu'on a. Donc c'est ça, c'est un petit peu jouer sur les deux tableaux, c'est ça qui est difficile. Et surtout chaîner.
Et surtout prendre une décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Alors ils essayent de s'adapter, de trouver des compromis, mais après, est-ce que c'est le mieux? Est-ce qu'ils peuvent toujours, est-ce qu'ils peuvent faire mieux, moins bien?
Est-ce que l'innovation, ce ne serait pas justement de ne pas sacrifier le territoire pour garder toujours cette attractivité du tourisme?
De ne pas sacrifier?
Ben oui, comprendre, on serait obligé de sacrifier un territoire pour faire des choix.
Mais c'est ce qu'on essaye de faire.
C'est ce qu'on tend à faire.
C'est la problématique auquel on se confronte, c'est de savoir si justement on conserve le territoire tel qu'il est, parce que c'est un patrimoine et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ou si...
Il faut faire un choix entre sacrifier ou pas sacrifier. Parce que l'innovation, c'est justement de ne pas sacrifier.
C'est difficile d'apporter une réponse comme ça, parce que si tu dis qu'on touche à rien sur le territoire, à un moment donné, on va être bloqué au niveau du développement, parce qu'on est sur une île et que ça va être difficile.
Est-ce que l'innovation, c'est pas la solution?
Alors, peut-être, pourquoi pas développer, au lieu d'aller vers les littoraux, développer plus le centre de la Corse, qui reste beaucoup inactif?
Oui, bien sûr.
Et ça peut être une solution pour ne pas, justement, pas sacrifier les littoraux.
Non, c'est une notion de sacrifice.
D'accord, merci.
Merci beaucoup et au revoir.
Au revoir.
C'était l'Atelier Campus, les étudiants prennent la parole.